Bonjour à toutes et à tous. Donc, premier sujet de bac de physique, donc jour 2, sur le robot Persévérance, dont le but est d'en apprendre plus sur la planète Mars avec ses multiples capteurs et instruments de mesure. Donc, c'est un exercice qui nous permet de réviser tout ce qui concerne les mouvements, forces, et en particulier comment on fait pour analyser le mouvement et le mettre en équation dans le cas simplifié d'une chute libre. Alors la première question portait donc sur les différentes phases en termes d'études cinématiques, c'est-à-dire mouvement, vitesse, accélération, et études dynamiques, c'est-à-dire voir les forces qui sont liées pour expliquer justement les différentes phases du robot. Alors donc la première phase, donc le mouvement étudié, on nous dit que la descente elle est ralentie. Donc si la descente est ralentie, donc il descend déjà vers le bas, donc ça, le vecteur vitesse là qui est en vert est vers le bas. Et pour savoir l'accélération, il faut regarder. Donc si le mouvement est ralenti d'après la deuxième loi de Newton qu'on peut appliquer ici, encore une fois, au système robot dans un référentiel qui est supposé galiléen, ça nous est précisé. Donc la somme des forces est égale au produit de la masse fois l'accélération, m fois a. Donc il y a deux forces, donc la force de propulsion, là, qui est notée F, et ainsi que le poids, toujours vers le bas, donc qui est noté, bien sûr, P vecteur. Donc d'après la seconde loi de Newton, on a m fois a qui est égal à F plus P. Et donc pour que la descente soit ralentie, il faut que F soit supérieur à P, ce qui signifie que l'accélération va bien être ici vers le haut. La deuxième partie là, donc deuxième ligne, donc pour avoir du surplace, ça veut dire que sa vitesse est nulle, donc V égale au vecteur nul. Il n'a pas également d'accélération, donc le robot à ce moment-là, l'accélération est égale à 0. On peut utiliser comme loi la première loi de Newton, qui est appelée aussi principe d'inertie. Comme la vitesse est nulle, c'est-à-dire qu'elle est constante, en sa cas particulier, la vitesse est nulle, on peut, d'après le principe d'inertie, dire que les deux forces qui s'exercent sur l'objet se compensent, c'est-à-dire que leur somme vectorielle est égale à 0. P plus F est égal à 0. Ce sont deux vecteurs qu'on appelle aussi des vecteurs opposés. Et enfin, donc dernière phase là ici, donc de descente à vitesse constante. Donc d'après la première loi de Newton également aussi, cela signifie que si le vecteur vitesse est constant, que la somme des forces est égale au vecteur nul, autrement dit, les deux forces P et F se compensent. La vitesse, cette fois, est toujours vers le bas, mais par contre, l'accélération, d'après cette première loi de Newton, est nulle. Il n'y a pas d'accélération puisqu'on est en mouvement rectiligne et uniforme. Question donc 2. Donc, on nous dit que les forces de frottement sont négligées. Tout de suite, ça doit nous faire penser au fait qu'on ne considère qu'une seule force qui est le poids, P vecteur. Et donc cela signifie que la nature de la chute est une chute libre. Pour établir l'expression, donc à bien savoir faire, question hyper classique, donc l'expression des différents vecteurs, accélération, vitesse, position, on commence toujours par appliquer donc la deuxième loi de Newton qui nous dit que somme des forces est égale à m fois a, mais seulement ici on n'a qu'une seule force qui est le poids, donc P égale m fois a. On sait que P égale m fois g vecteur, donc m fois g vecteur égale m fois a vecteur, et donc a égale g. Puis après, on projette sur les axes qui nous sont proposés. Donc à bien regarder les axes, comment ils sont orientés. Ici, on voit que l'axe O, l'axe Z, pardon, est orienté vers le haut, l'axe là, ici OX est orienté vers la droite, et donc projection sur ces deux axes. D'après donc application de la deuxième loi de Newton, on a prouvé que a est égal à g vecteur, donc g est toujours descendant, donc vers le bas, et ici l'axe OZ est vers le haut. Donc ça veut dire que si on projette le vecteur G vers cet axe OZ, cela signifie que AZ est égal à moins G. Il n'y a pas d'accélération selon l'axe X, donc AX est égal à 0. Et donc on a établi les coordonnées du vecteur, les composantes du vecteur, donc accélération, qui sont donc AX égale 0 et AZ égale moins G. Pour obtenir celle ensuite de la vitesse, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, a égale dv sur dt. Et donc, pour avoir la vitesse, il va falloir primitiver, entre guillemets, donc cette accélération. Donc sur l'axe X, donc ça veut dire qu'on doit primitiver donc 0, trouver une primitive de 0, qui est une constante qu'on note, par exemple C1, constante 1, n'importe quelle grandeur que vous voulez. Sur l'axe Z, on sait que AZ égale moins G, donc une primitive de moins G, donc ça va être moins GT plus une constante, qu'on va noter par exemple C2 ou constante 2. On a donc que Vx c'est une constante et Vz c'est moins GT plus une autre constante, donc on note C2 par exemple. Pour trouver ces constantes, toujours avoir en tête la méthodologie, il faut utiliser les conditions initiales, les CI pour les intimes. D'après le schéma de la figure 2, on voit que V0 fait un certain angle alpha, donc avec l'axe OX. Et donc, pour avoir donc les deux coordonnées de V0 selon l'axe OX et OZ, on utilise la trigonométrie habituelle. On sait que V0x, par une petite démonstration très rapide, c'est toujours la même chose, hein, va être V0 cos alpha et V0z, V0 sin alpha. Mais aussi, V0, c'est quoi? C'est bah, la vitesse à t égale 0. Donc si on remplace donc v de x à t égale 0, bah, c'est toujours une constante qu'on a notée constante 1. Donc c'est constante 1, mais c'est aussi, d'après ce qu'on vient de dire, v0 cos alpha. Donc tout de suite, la première constante vaut v0 cos alpha. Et on fait pareil, vz à t égale 0, c'est moins g fois 0 plus constante 2, c'est-à-dire c'est constante 2, mais c'est aussi v0 sin alpha. Donc les deux constantes, on a v de x finalement, v de x de t qui vaut v0 cos alpha, et vz de t qui vaut moins gt plus V0 sin alpha. Pour avoir après donc les coordonnées de la position, on sait que V c'est D de OM sur DT, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, c'est-à-dire que V de X c'est DX sur DT et V de Z c'est DZ sur DT. Donc pour avoir X de T et Z de T, on sait qu'on va devoir primitiver V de X respectivement et V de Z. On sait donc d'après la question précédente que V de X de T c'est V0 cos alpha. Donc pour avoir x, on prend une primitive donc de v0 cos alpha, qui est v0 cos alpha fois t plus une constante qu'on va noter, constante 3 par exemple, ou c3. Pour z de t, on sait que vz de t, c'est moins g fois t plus v0 sin alpha. Donc il faut prendre une primitive donc de moins g fois t plus v0 sin alpha. La primitive de t, on se souvient, c'est t carré sur 2 à connaître par cœur. Donc finalement, z de t, ça va faire moins de t carré, moins 1 demi fois g fois t carré, plus V0 sin alpha fois t, plus une constante qu'on va noter constante 4. Pour avoir les valeurs de constante 3 et constante 4, on prend x à t égale 0 et z à t égale 0. On sait d'après le schéma que x à t égale 0, c'est 0. Donc en remplaçant, ça va faire V0 fois cos alpha fois 0, c'est-à-dire 0 plus constante 3. Donc la constante 3 tout de suite vaut 0. Et pour z, on prend z à t égale 0, donc ça va faire moins 1 demi fois g fois 0 au carré, plus v0 fois sin alpha fois 0, tout ça fait 0, plus constante 4, qui est égal à quoi? Bah, au départ, on sait que il y a une certaine altitude qui est h. Donc tout de suite, constante 4 vaut h. Et en remplaçant dans x de t et z de t, les valeurs de constante 3 et constante 4, il nous vient que x de t, c'est v0 fois cos alpha fois t, et z de t, c'est moins 1 demi fois g fois t carré, plus v0 sin alpha fois t, plus h. Alors, question hyper classique également, la question 4, qui vient souvent après cette question-là, c'est de montrer que l'équation de la trajectoire est sous une certaine forme. Pour ça, la méthode est toujours la même. On a x de t et z de t. Pour avoir donc z de x, on exprime t en fonction de x. On sait que x de t, c'est v0 cos alpha fois t. Donc t, c'est x sur v0 cos alpha. Et après, on prend ce x sur v0 cos alpha, qui est le t, et on l'injecte dans le z de t. On trouve donc moins 1 demi fois g fois donc x sur v0 cos alpha, on n'oublie pas le carré, plus v0 sin alpha fois x sur v0 cos alpha, plus h. Et après, on peut simplifier un petit peu en distribuant le carré. Donc ça va faire moins 1 demi fois gx carré sur v0 carré cos carré de alpha. Et on se souvient qu'on a un sin alpha sur cos alpha qui va forcément apparaître ici, qui n'est autre que la tangente alpha. Donc plus tangente alpha x plus h. C'est une trajectoire qui est de type parabolique, avec le x carré. Et enfin, dernière question. Donc souvent après, une fois avoir établi la trajectoire, on peut nous demander deux choses. C'est de montrer par exemple l'altitude maximale que peut avoir l'objet, ou également à quelle distance il peut aller au maximum. Alors ici, bah, c'est à quelle distance il peut aller au maximum, puisque quand on lit l'énoncé, afin de ne pas endommager le rover, il doit être éjecté donc au niveau à 200 mètres pardon de distance du rover, donc le Sky Crane, et donc pour qu'il soit éjecté à 200 mètres, ça veut dire qu'on va chercher la distance maximale à laquelle on va pouvoir à laquelle elle peut être atteinte. Et donc pour ça veut dire que le Z, l'altitude, à ce moment-là, sera égal à 0 et qui va atterrir à combien de distance? Ben, c'est le X qu'on va chercher. On se rend compte que pour que Z égale à 0, on a une petite équation donc du type moins 1/2, donc fois G fois X carré sur V0 carré cos carré de alpha plus tangente alpha X plus H, qui est égal à 0. Et donc, on a une équation à résoudre hein, de degré 2. Et donc pour ça, on va remplacer par les valeurs tout ce qu'on connaît. Donc le 1/2 fois g fois x carré sur v0 carré cos carré de alpha, plus donc tangente alpha fois x plus h, et le tout doit être égal donc à 0. Donc on fait comme application numérique. En remplaçant par les valeurs, attention le G, parce que souvent on a la... Donc le G ici vaut 3,7. Après, donc on avait la vitesse V0 au départ, qui est la vitesse initiale, 25 mètres par seconde. Donc on n'oublie pas le carré, dénominateur. Le cos alpha au carré, donc c'est un angle, on nous dit, de 45 degrés. On fait attention à bien régler donc sa calculatrice en degrés. On remplace donc les différentes valeurs par leurs valeurs qui sont données. Et donc on arrive à une équation du deuxième degré de type donc 192 fois 10 moins 3x au carré moins x moins 60, le tout égal à 0. On rentre tout ça dans la calculatrice. Hein, donc on a déjà vu récemment revu comment on faisait. Inutile de la résoudre à la main avec le discriminant, le delta b carré moins 4ac, etc. C'est une perte de temps, on s'en est pas évalué nous là-dessus. Mais par contre, il faut savoir le faire rapidement sur la calculatrice. On va trouver deux racines, une négative qui n'a pas de sens, nous une distance est toujours positive, hein, donc on est en physique. Et l'autre valeur qui est à peu près de 216 mètres, donc en gardant deux chiffres significatifs, 2,2 fois 10 puissance 2 mètres, donc 220 mètres environ, ce qui est supérieur à 200 mètres. Et donc on peut conclure que le x qu'on a trouvé est cohérent avec le fait que le Skycrane atteint bien la distance de sécurité et ne va pas gêner le robot, le rover ici. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle correction et de nouveaux commentaires.